France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Vous êtes nombreux actuellement à vous plaindre de votre sommeil, de sa qualité. En cause pour beaucoup, le climat anxiogène dans lequel nous vivons. Cette plainte est-elle une réalité? Sur le temps de sommeil, pas vraiment. Cette année, les Français ont dormi en moyenne 7h32, c'est 22 minutes de plus qu'en 2024. Et en week-end, ce temps est allongé, il passe à 7h38 avec une hausse de 13 minutes par rapport à l'année dernière. C'est donc mieux, mais on est loin de l'avant-Covid où nos nuits duraient 8h14. Et de plus, clairement, notre sommeil n'est pas forcément de qualité. 70% des Françaises se réveillent la nuit entre une et deux fois et mettent en moyenne 28 minutes à se rendormir. Et plus d'un Français sur deux considère qu'il ne dort pas assez. Impression ou réalité? Qu'est-ce qu'un bon sommeil? À quoi ça sert? Comment y parvenir? Que faire pour parvenir à s'endormir rapidement? Oui, que faire lors de ce réveil nocturne pour éviter de broyer du noir? Comment gérer de vraies insomnies? Quelle est la place des antidépresseurs? Un spécialiste est là pour répondre à toutes ces questions. Patrick Lemoine, bonjour.
Oui, bonjour Marina.
Vous êtes médecin, psychiatre, spécialiste du sommeil. Vous avez d'ailleurs ouvert votre premier service du sommeil, c'était en 85. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres et le dernier qui est vraiment très bien fait avec comme co-auteur Museau, c'est une BD qui s'appelle « Docteur, j'ai mal à mon sommeil » publiée chez Odile Jacob. Elle est très concrète, très utile. Vous expliquez à travers divers personnages de tous âges différents troubles du sommeil qu'on peut rencontrer, insomnie, apnée du sommeil, somnambulisme, cauchemar, troubles du tout petit. Alors, on va commencer par essayer de comprendre notre sommeil dont on assimile souvent la structure à un petit train qui circule plusieurs fois dans la nuit. C'est un peu enfantin, mais c'est pas entièrement faux. Il est fait de quoi notre sommeil?
Alors, le sommeil, il faut comprendre que c'est un phénomène qui n'est pas passif, comme on le croit souvent. On ne se repose pas vraiment pendant le sommeil. Au contraire, on se répare. On dit qu'un sommeil est réparateur. Alors, c'est quoi le sommeil? C'est un moment où on se déconnecte presque complètement de l'environnement. Je dis presque complètement parce qu'en réalité, si on respire un parfum, si on entend un bruit, on peut le transformer en quelque chose qui devient du rêve. Donc, on reste un tout petit peu connecté. Deuxièmement, c'est un phénomène facilement réversible. C'est ainsi, Marina, que si votre mari est à côté de vous, si vous voulez être sûr qu'il n'est pas dans le coma, vous le faites ça, vous l'effleurez, il se réveille, il n'est pas dans le coma, il dort. Alors qu'un coma n'est pas réversible. Et il n'est pas content, c'est une autre question. La troisième chose, c'est que c'est cyclique. En principe, on dort plutôt la nuit, ou deux fois, selon les cultures. Et enfin, le sommeil doit être réparateur, pour énormément de raisons. Alors ce petit train, il a en gros plusieurs wagons. Il y a l'endormissement, le stade 1, le stade 2. Un de mes amis disait, c'est la bonne à tout faire du sommeil. C'est-à-dire, elle bouche les trous, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Le stade 3, c'est le majeur, c'est l'important. En gros, il se produit pendant les trois premières heures de sommeil, quand on se couche à son horaire habituel. Et enfin, le rêve, le sommeil paradoxal.
Vous disiez qu'on dormait en une ou deux fois. J'ai appris qu'à la Renaissance, les gens dormaient en deux fois.
Tant qu'il n'y a pas eu l'électricité, les ampoules, on dormait très souvent en deux fois. On parlait de premier sommeil, de deuxième sommeil. Et donc, on pouvait très bien se réveiller à 2h du matin, toute la famille, manger, jouer aux cartes, aller chez les voisins. C'était tout à fait normal. Puis, il y avait le deuxième sommeil. Et là, c'était classique, c'était le sommeil normal. Et il reste quelques tribus en Extrême-Orient qui continuent à pratiquer le sommeil de temps. Et puis, il y a des tribus de papous qui, elles, sont 5, 6, 7, 8 ans.
C'est très étonnant. On n'est pas égaux face au sommeil, ça on le sait. Il y a des grands et des petits dormeurs. On sait quoi là-dessus?
Alors, on pense quand même qu'il y a deux facteurs génétiquement programmés. Le temps de sommeil, qui, à mon avis, est beaucoup moins important que la qualité du sommeil. C'est pas important de dormir beaucoup, ce qui est important, c'est de dormir bien. Et donc, être long ou court dormeur, ou moyen dormeur, c'est a priori une question avant tout génétique. Et il est important de respecter ces gènes, parce que si on est long dormeur et qu'on se met à dormir pas assez, ou le contraire, on tombe malade, c'est sûr. Mais il faut bien, malheureusement, dire que les moyens dormeurs ont tendance à vivre plus vieux que les longs ou les courts dormeurs.
On va parler justement de l'impact sur la santé, parce qu'on ne sait pas toujours que ça a un impact très important. À quoi ça sert de bien dormir, déjà pour notre cerveau?
Bien dormir, c'est le pilier principal de la santé et de la longévité. C'est sur la qualité du sommeil que va être conditionnée toute notre qualité de vie et notre non-maladie, et notre longévité, comme je disais. Alors, il y a énormément de raisons pour cette chose-là. Il faut que le sommeil soit réparateur. Et on doit bien comprendre que c'est au cours des 3 premières heures de sommeil aux horaires habituels, j'insiste énormément là-dessus, qu'on fabrique de l'hormone de croissance qui, elle, va tout changer parce que l'hormone de croissance nous fait faire de la synthèse. Donc on grandit quand on est petit, on cicatrise, on fabrique des spermatozoïdes, on diminue le taux de cholestérol, on diminue le taux de glucose. Bref, cette hormone de croissance est essentielle à notre bonne santé. C'est surtout là-dessus que...
Mais bien dormir, ça sert aussi, ça on le sait quand même peu, à rester mince.
Oui. Alors, c'est pendant le sommeil qu'on fabrique une hormone qui s'appelle la leptine, qui est l'hormone de la satiété, qui fait dire, j'ai plus faim. Alors, c'est utile la nuit de ne pas avoir faim, parce que sinon on serait tout le temps réveillé, mais ça retentit sur toute la journée. Et beaucoup d'études montrent que les insomniaques, malheureusement pour eux, grossissent considérablement, et on doit en tenir compte. De même, toujours dans la rubrique du poids, c'est au cours du sommeil qu'on régule l'insuline. Une étude impressionnante où on a pris une 30aine d'étudiants en très bonne santé et on les a payés pour dormir moins de 5 heures par nuit pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, il y a eu une chute impressionnante de l'insuline et un début de résistance à l'insuline. Ils étaient prédiabétiques au bout de 15 jours de privation de sommeil. Et s'ils avaient malheureusement pour eux le gène, ils auraient pu devenir diabétiques.
Alors évidemment, on a tous envie d'avoir un bon sommeil. Déjà, vous le dites, il faut se connaître dans ce domaine.
Ouais.
À quelle heure on se couche, on se lève, la semaine, le week-end, comment on sait ce qui est bon pour nous?
Alors, si on va bien, on fait ce qu'on veut.
D'accord.
C'est clair.
On va s'adresser aux autres.
Il y a des personnes qui font n'importe quoi avec leur sommeil, se portent bien, sont en pleine forme dans la journée. J'ai envie de dire, le sommeil, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la qualité de l'éveil. Si le matin, je me réveille, que je suis de bonne humeur et que la journée est belle, et que toute la journée, je n'ai aucun coup de pompe, aucun problème de concentration ou de mémorisation, c'est que j'ai dormi ce qu'il faut. Donc, si un jour, j'ai une pêche d'enfer toute la journée, je vais me demander à quelle heure je me suis endormi à peu près hier et à quelle heure je me suis réveillé ce matin.
Ouais.
Bingo, c'est mon horaire idéal. Et ensuite, toute ma vie, je vais essayer de me caler là-dessus en disant que j'ai quand même le droit de faire la fête. Mais quand même pas trop souvent. Faut pas trop perturber ses rythmes, ça peut coûter cher.
Le droit de faire la fête, mais pas la grasse matinée tous les week-ends.
Alors, la grasse matinée, ça dépend si on est génétiquement du matin ou du soir. Par exemple, pour parler de quelqu'un que je connais bien, votre serviteur, moi je suis dramatiquement du matin, puisque tous les matins, il y a une main invisible qui, à 5h30, m'arrache du lit. À 5h30, je suis debout, et à 6h, je suis en train d'écrire. C'est comme ça, et si malheureusement, pour une raison X, je me réveille à 6h15, faire une telle grasse matinée,
ouais,
pour moi, je suis dans le coltard.
Ah,
je suis dans le coltard. Et donc, les sujets du matin qui s'astreignent à se lever plus tard vont droit vers la dépression, parce que la dépression, je vais peut-être en choquer certains, c'est rien d'autre que ce qu'on appelle un retard de phase, c'est-à-dire s'endormir trop tard, se réveiller trop tard. Tout patient déprimé qui vient me voir, ma première prescription, c'est levez-vous 1h30 plus tôt. Et souvent, je peux me passer d'antidépresseur rien qu'en l'élevant plus tôt. Donc, faut connaître son bon horaire. Si on est du matin, faut pas se réveiller trop tard. Même si on fait la fête, on se lève à la même heure, quitte à faire des petites siestes. Mais si on est du soir, oui, on est beaucoup plus chrono-flexible, alors que moi je suis chrono-rigide, et les chrono-flexibles peuvent se permettre beaucoup plus de choses.
Vous parlez de la sieste dans certains pays.
Et dont la grasse matinée.
La sieste dans certains pays, c'est systématique parce que c'est culturel. Est-ce que ça peut compenser ou pas une mauvaise nuit? Écoutez le témoignage d'Antoine, il parle dans le téléphone sonne sur France Inter, écoutez-le.
Avant, je n'avais pas l'occasion de faire la sieste sur mon travail, et depuis un an, j'ai la possibilité de le faire. Et ça m'a vraiment changé la vie, professionnellement parlant, parce que avant ça, tous les après-midi, j'avais une demi-heure, une heure de gros bâillements, de fatigue, de difficultés à me concentrer. Et depuis que je fais la sieste, j'ai plus du tout de problème du tout. C'est beaucoup plus facile. Et ma collègue qui partage mon bureau a remarqué aussi que je bâillais moins qu'avant.
Alors, est-ce que tout le monde doit faire la sieste? Est-ce que ça doit être organisé, justement, dans les sociétés?
Alors, il faut savoir, et c'est une chose tout à fait étrange, et probablement génétique et non pas culturelle, c'est que vous soyez suédois ou congolais, à 13 heures, vous avez un creux de température. Or, c'est notre température qui conditionne notre éveil. Et ce creux de température, qu'on ait mangé ou pas, qu'on soit au nord ou au sud, est le même chez tout le monde. Donc, il y a un creux de vigilance après l'heure du déjeuner, même si on n'a pas mangé.
D'accord.
Donc, la tendance à la sieste est physiologique. Dans mon esprit, c'est peut-être parce qu'on a été construit en Éthiopie, sous l'équateur, et qui, pour survivre, il y avait intérêt à baisser sa température vers 13 heures, au moment où il fait le plus chaud. C'est peut-être une survivance atavique. Mais il y a aussi un côté culturel et peut-être épigénétique que moi je trouve passionnant. La première fois que je suis allé à Salamanque, j'étais très frappé de voir à 2h du matin des petits gamins de 5 ans qui jouaient sur la Plaza Mayor. Je me disais, mais enfin, que font les parents? Mais non, c'était tout à fait normal. Ils se couchaient très tard, ils se levaient un peu plus tard, mais pas si tard que ça. Ils faisaient 3-4 heures de sieste dans la journée, ces petits-enfants. Et tous les Espagnols, ou presque, en tout cas notamment en Andalousie, mais aussi à Barcelone, ils se couchent très tard, ils se réveillent presque aussitôt que nous, et ils font 2-3 heures de sieste. Alors quand vous leur dites pourquoi, ben, il fait chaud, on peut rien faire à midi. Peut-être, mais leurs voisins de palier, c'est les Portugais. Et les Portugais qui ont à peu près le même climat, ils font pas la sieste.
D'accord.
Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les descendants culturels des Espagnols, je parle des Boliviens, je parle des Colombiens qui sont des Indiens d'Amérique du Nord, donc ils n'ont pas de gène commun avec les Espagnols, ils font la sieste. Mais les descendants culturels des Portugais,
ils font pas la sieste.
Les Brésiliens, qui sont des Africains pour l'essentiel, ils font pas la sieste non plus. Donc on voit que c'est peut-être l'épigénétique qui nous permet de comprendre cette persistance sur 500 ans de la culture de la sieste.
Alors parlons de nos nuits. Vous avez bien dit qu'il y a plusieurs cycles pendant la nuit qui se succèdent. Est-ce que déjà c'est assez normal et banal de se réveiller à la fin d'un cycle et d'être réveillé 5 minutes et de se rendormir ou pas?
Mais tout le monde, Marina, vous aussi, vous vous réveillez à la fin d'un cycle. Mais
oui, moi ça dure 3 quarts d'heure après pour que je me rendorme.
C'est plus embêtant, mais normalement c'est moins de 3 minutes.
D'accord.
Ça peut être 5 secondes, ça
donc
peut être 10 secondes.
Donc on ne s'en rend même pas compte.
Il faut 3 minutes pour s'en souvenir.
D'accord.
Donc tout le monde se réveille, ou presque, à la fin d'un cycle, très peu de temps, et ne s'en souvient pas. C'est normal d'avoir des réveils, tout le monde a des réveils toutes les nuits. En revanche, par exemple, pour se rappeler un rêve, il faut se réveiller au moins 3 minutes, en cours de sommeil paradoxal, ou juste après. Et là, on va s'en souvenir.
Et si possible, le noter tout de suite.
Si on met 3 quarts d'heure, comme vous, Marina, pour s'endormir après, là, il faut venir me voir.
je lis, c'est pas grave. Alors, non, il y a quand même beaucoup de gens qui se réveillent la nuit et qui n'arrivent pas à se rendormir.
Oui.
Et c'est vrai qu'en général, on tourne en rond, il y a les inés noirs qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
Alors, tout dépend comment on est construit et quels sont les goûts. Il y a évidemment la technique classique de rester dans le noir, ne pas bouger et faire de la cohérence cardiaque en respirant, en méditant, en faisant des choses comme ça. Et puis quand ça dure plus de 20-25 minutes, il vaut mieux se lever un petit moment.
Ouais.
Et puis, alors j'ai remarqué que mes patientes repassent.
Elles repassent la nuit.
Oui, elles repassent. Parce
formidable.
Elles disent c'est...
Leur mari ont de la chance.
C'est pas bruyant, c'est propre, ça prend pas la tête et elles se recouchent. Quant aux maris, souvent, ils regardent des vidéos sur le contenu desquelles je préfère ne pas m'étendre.
Vous êtes très délicat.
Moi, ce que je prescris aussi beaucoup quand même, immodestement, c'est moi qui l'ai mis au point, mais c'est de la mélatonine sublinguale en spray. Il n'y a pas d'études là-dessus.
Ouais.
Ça marche 6 à 7 fois sur 10 et c'est magique.
Au moment du réveil?
Ouais. En cours de nuit, 2 pchits sous la langue, c'est magique. Chez 7 personnes sur 10. Et les personnes se rendorment immédiatement et c'est naturel. Et donc c'est un truc dont je suis très fier.
Oui, c'est fascinant ça.
Oui, ça marche très bien.
Quand on n'arrive pas à s'endormir, en revanche, quand on se couche et qu'on n'arrive pas à s'endormir, très honnêtement, compter les moutons, c'est une escroquerie. Hein.
Le problème, c'est que si vous comptez les moutons, il en manque toujours un et vous passez le reste de la nuit à le chercher. Donc ça vous maintient l'éveil. Et c'est vrai, beaucoup de personnes comptent les moutons et puis à 8654 se trompent pour recommencer, c'est agaçant. Donc jamais compter les moutons. En revanche, moi par exemple, si je me réveille la nuit, ben, je vais me raconter, je vais me dire des fables de La Fontaine, en essayant de ne pas me tromper.
Mmh.
Et c'est suffisamment ennuyeux pour arriver à me rendormir. Il faut avoir quelque chose qui ne soit pas prise de tête, c'est-à-dire anxiogène ou pénible, pour éviter que le petit vélo démarre.
Mais c'est ça.
Et oui. Et donc il faut réfléchir à quelque chose de plaisant, pas trop intellectuel, et éventuellement par cœur. Parfois, je me chante aussi des comptines. Parfois, Michel Simès n'est pas là, mais des paillardes aussi. Mais ma femme n'est pas au courant, parce que c'est dans la tête.
Bien sûr.
Bref, et ça marche très bien.
Il faut vraiment éviter les tablettes, la télé, tout ça, le soir?
Alors, les tablettes, bien sûr. Moi, après dîner, mes patients, je leur interdis tout écran, sauf la télé, parce que là, t'as plus de 2 mètres et il n'y a pas trop de rayonnement bleu. Et j'ai acheté, parce que je suis un bon mari, une liseuse qui m'évite d'allumer.
Et ben la nuit, c'est ça que je fais, c'est la liseuse.
La liseuse,
et c'est très apaisant.
C'est formidable. Mais faut pas prendre un de mes livres, c'est trop passionnant. Ça va vous maintenir éveillé.
Je lis beaucoup Simenon la nuit, je vous avouerai.
Il faut prendre des bons livres, mais pas trop palpitants quand même.
Oui, d'accord.
Mais j'ai beaucoup de patients qui vont écouter de la musique classique, c'est très très bien. Du hard metal, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais une musique douce... Et puis tout ce qu'on appelle les bruits roses, c'est-à-dire la mer, le battement de cœur, ça fonctionne très très bien aussi. Parce qu'il faut bien comprendre que le bruit discontinu, on ne s'y habitue jamais. Mm-hmm. Le système cardiovasculaire, chaque fois qu'il y a un bruit discontinu, un avion qui décolle, un voisin bruyant, vous avez un coup d'hypertension et de tachycardie. Et il a été montré que les immeubles ou bruyants, en moyenne, les habitants avaient 1 à 2 points de tension artérielle en plus que les autres. Je suis pas en train de vous dire qu'on va traiter l'hypertension et des boules qui est, mais je suis en train de vous dire que on peut améliorer une tension avec une bonne isolation. En revanche, un bruit continu, une cascade, le ressac de la mer ne pose aucun problème, au contraire, favorise le sommeil.
Là, c'est des troubles qui sont peu graves. Il y a 40% des Français qui souffrent d'insomnie réelle. C'est avant tout l'anxiété, la dépression qui sont la cause de ces insomnies.
Alors, on part toujours des causes externes. C'est-à-dire qu'il y a les toxiques. Et le premier toxique, la première question que je pose à mes patients, c'est thé, café, chocolat, boisson à la cola, boisson énergisante. On oublie toujours qu'il y a plein de caféine dans les boissons à la cola. Oublie toujours. Et ça, c'est dramatique, parce que beaucoup de personnes vous disent « Moi, j'en prends un en me couchant, j'ai aucun problème. » Oui, d'accord, mais si j'enregistre votre sommeil, je verrai qu'il y a des problèmes. Votre sommeil est de mauvaise qualité. Donc, pas de café après 15-16 heures, quand on est jeune, et pas à partir de 14 heures quand on est moins jeune.
D'accord.
C'est très long, c'est très long. Le pic d'activité, ça peut être 8-10 heures après.
Juste, vous avez évoqué là l'enregistrement du sommeil. À qui on le fait ? À partir de quand on va faire une polysomnographie du sommeil ?
Alors, on fait pratiquement jamais de polysomnographie aux insomniaques, sauf sur ce qu'on appelle les insomnies paradoxales. Les insomnies, les gens dorment mais ne savent pas qu'ils dorment. En revanche, dès qu'il y a hypersomnie, on enregistre. Parce que on peut pas louper un syndrome d'apnée du sommeil, parce que ça met la vie en danger. Et puis, la narcolepsie, l'hypersomnie idiopathique et autres noms barbares, on les enregistre systématiquement.
Ah, les insomniaques, c'est pas eux qu'on enregistre avant
non,
tout?
Non, très peu, non, parce qu'on trouve ce qu'ils nous disent, en fait. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette insomnie paradoxale. Docteur, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Donc, je fais tout, l'hygiène des rythmes, l'hypnose, la méditation, enfin, tout ce que je fais habituellement, les plantes, je prescris énormément de plantes, la valériane en particulier. Et puis quand ça marche pas, je dis, écoutez, je vais vous enregistrer. Et là, la personne se dit, oula, il veut m'enregistrer, c'est qu'il me croit pas. Il pense que je mens. Je vais lui montrer que je dors pas. Et le lendemain matin, la personne est effondrée, j'ai dormi comme un bébé, ça m'était pas arrivé depuis 10 ans. Qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre? C'est votre envie de dormir qui vous empêche de dormir. C'est parce que vous voulez dormir que ça vous concentre trop, que vous n'arrivez pas à vous endormir. Vous vous dites, demain, il faut que j'ai la forme, j'ai un truc important à faire, il faut que je dorme. Et là, vous êtes sûr de ne pas dormir. Et là, comme cette personne voulait me montrer qu'elle ne dormait pas, elle luttait contre le sommeil. Et dans certains cas, on apprend aux gens à lutter contre le sommeil pour dormir.
Vous avez cité effectivement différentes techniques, la relaxation, l'EMDR scientifique, différentes thérapies pour lâcher prise. Et donc,
l'EMDR, c'est en cas de syndrome post-traumatique. Voilà. Et puis, j'ai eu pas mal de patients qui sont venus me voir. Au début, ça m'effarait. Docteur, aidez-moi à ne plus jamais dormir. Je dis, d'habitude, on vient me voir pour dormir. Non, mais je peux pas toutes les nuits revivre mon viol. C'est pas possible que toutes les nuits je sois violée. Et donc, en fait, c'est des cauchemars post-traumatiques. Dans la journée, en plus, il y a des reviviscences. Et là, c'est vrai que l'EMDR, c'est magique.
Et donc, les plantes, vous prescrivez parfois en première intention les plantes ?
Oui. En première intention, j'ai la mélatonine à libération prolongée ou à libération différée pour les gens qui se réveillent trop tôt le matin. Et puis les plantes, dont la star et la valériane, même si son goût est infâme, enfin c'est en gélule. Escoltia, lavande, rendent des services aussi. Mais c'est quand même la valériane qui est de loin la mieux scientifiquement démontrée.
Et la place des des somnifères là-dedans, c'est quoi aujourd'hui ? Parce que c'est vrai qu'on est des très grands consommateurs, on dort pas plus mal pourtant que les autres Européens, mais on en prend quand même beaucoup.
Eh ben, quand je serai ministre de la Santé, ce qu'à Dieu ne plaise, j'interdirai les somnifères. Parce que pour moi, c'est des produits dangereux, toxiques, qui sont immunotoxiques en particulier. Donc il y a plus de maladies de système, plus d'infections. Pendant le Covid, on a vu ça. Les gens qui dormaient mal et ceux qui étaient sous somnifères se sont retrouvés plus souvent à l'hôpital, voire pire. Donc c'est des produits dangereux.
Et qu'il ne faudrait plus prescrire.
Somnifère, c'est une escroquerie intellectuelle. Somnisférer, ça veut dire apporter le sommeil. En fait, on ne dort pas. C'est des anesthésiques légers. Donc, on est anesthésié, mais on ne dort pas. Ce qui explique que quand on dort, entre guillemets, sous somnifère, on est fatigué.
Mais pourquoi on a prescrit tellement en France ?
Parce que c'est la facilité. On oublie. Pendant ce temps-là, c'est la même idée que ce fantasme dangereux des cures de sommeil, qui était une catastrophe autrefois, qui rendait les gens toxiques, comanes, et pour rien. Alors, il y a quand même un nouveau médicament qui s'appelle le daridorexan.
Oui.
Je ne peux pas donner le nom commercial.
Et non.
Qui n'est pas un pro-sommeil, un GABAergique, mais qui est un anti-éveil.
D'accord.
Et ça, c'est intéressant.
Oui.
Alors les gens souvent au début sont déçus parce qu'il fait souvent rien pendant une, deux, trois semaines. Mmh. Alors vous prenez un somnifère, paf, dès la première nuit vous dormez. Mais à terme ça paye, il faut les prendre pendant un mois, deux mois, trois mois et on peut les arrêter d'un coup, sans problème. Mais je commence quand même toujours par les plantes. D'abord la valériane, la mélatonine, soit libération prolongée pour les gens qui se réveillent en cours de nuit ou... Et en spray pour ceux qui n'arrivent pas à s'endormir et qui se réveillent la nuit. Et puis à libération différée pour les gens, surtout les personnes âgées qui se réveillent trop tôt le matin.
C'est ça, les personnes âgées se plaignent souvent de moins dormir, mais c'est assez physiologique quand même qu'elles dorment moins.
Mais ce n'est pas tout à fait vrai en fait. D'accord. Parce que si vous cumulez le temps de sommeil dans la journée et au cours de la nuit, vous retrouvez à peu près à 10 minutes près les mêmes chiffres. Simplement, les personnes âgées, c'est le cliché du grand-père dans son fauteuil à oreillette qui somnole et qui en fait dort. Et donc, comme il dort toute la journée, eh bien, la nuit, évidemment, il dort moins bien. Mais il faut reconnaître aussi que le sommeil prend des rides. Et donc, il y a moins de sommeil utile, de stade 3, de sommeil paradoxal quand on est âgé, plus de changements de stade. Et donc, le sommeil est beaucoup moins réparateur. Mais en quantité, on est presque pareil.
On va continuer cet entretien. Pour l'instant, on parle recherche. On est avec notre chronique science, tout de suite.
Carnet de santé.
Et si notre ventre jouait un rôle dans le circuit de la récompense? Ce circuit, vous le connaissez, c'est lui qui nous pousse à remplir nos besoins vitaux, comme boire, manger ou dormir. Il est à la base de tous les comportements liés au plaisir et à la motivation, et donc à la libération de dopamine. Il est absolument essentiel au bon fonctionnement de l'organisme, mais il arrive que ce système s'emballe. Certaines molécules ciblent directement les neurones impliqués dans le circuit de la récompense. Au fur et à mesure des sollicitations, ils se renforce et on passe du plaisir à l'addiction. Ce circuit trouve son siège dans le cerveau, bien sûr, c'est le centre de traitement de tout le corps, mais il ne serait pas le seul organe impliqué. Oriane Onimus est docteur en neurosciences de l'Université Paris-Cité.
On s'est rendu compte récemment que c'était quand même assez important de considérer aussi les autres organes qui communiquent constamment des informations au cerveau. Et donc il y a un constant monitoring, si je puis dire, un constant influx d'informations envoyées au cerveau qui intègre ces informations pour donner une récompense qui va permettre de donner une réponse adaptée qui peut modifier par exemple notre comportement. Je vais vous donner un exemple, c'est la prise alimentaire. Donc quand on mange, en fait, il y a des signaux constants dans le corps qui sont envoyés au cerveau pour l'informer de notre état métabolique. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'intestin, quand on mange, on digère et il y a des signaux de la nourriture, donc, qui sont envoyés au cerveau pour l'informer de est-ce qu'on doit encore manger ou pas. Et du coup, ça permet au cerveau d'intégrer toutes ces informations pour donner une réponse. Donc, la réponse comportementale serait je vais encore manger ou je m'arrête de manger.
Ce dialogue entre intestin et cerveau est permanent et dans les deux sens. On parle d'axe cerveau-intestin. Attention d'ailleurs à l'expression « l'intestin est notre deuxième cerveau ». Notre cortex se caractérise par une très grande diversité de cellules et de connexions. Ce n'est pas le cas de notre intestin qui remplit d'autres rôles. Appelons-le donc axe intestin-cerveau. Il est aujourd'hui très étudié. On sait qu'une dysfonction de cet axe, auquel on ajoute souvent le microbiote, peut être impliquée dans un certain nombre de pathologies, du cœur, des pathologies inflammatoires, dans l'anxiété et dans la dépression, mais participe-t-il aussi au circuit de la récompense? C'est ce qu'a voulu déterminer cette nouvelle étude, parue dans Science Advances. La méthode est assez radicale. Elle consiste à couper chez des souris la principale voie de communication entre cerveau et intestin par le biais du nerf vague. Cette vagotomie n'est pas douloureuse en soi, mais elle est définitive. Ici, le but est exploratoire. Comprendre ce qu'il advient de la communication entre cerveau et intestin si le nerf vague n'assure plus la transmission de l'information. Résultat, couper ce nerf vague rend le circuit de la récompense un peu moins réactif. Les souris sont moins attirées par la nourriture grasse, mais aussi, et plus étonnamment, à des drogues comme la cocaïne.
Quand on les soumet à un régime qui est riche en graisse, ce qui est pour elles une récompense, on voit des différences de prise alimentaire. Aussi, on s'est demandé du coup si en termes un peu plus larges, est-ce que ça modulait la récompense en général? Du coup, c'est pour ça qu'on a testé en réponse à des drogues. Et on s'est rendu compte que les souris répondaient moins à la cocaïne quand elles avaient une coupure de ce nerf vague, de la partie intestin-cerveau. Du coup, la communication intestin-cerveau est importante pour la réponse aux drogues. C'était très surprenant. Intuitivement, on peut se dire que les drogues récréatives agissent sur le cerveau. Donc pourquoi est-ce que couper la partie intestin-cerveau modifie la réponse aux drogues? C'est pas parce que les drogues agissent directement sur le nerf vague, c'est parce que les drogues agissent bien au niveau cérébral sur le circuit de la récompense, mais agissent sur un circuit de la récompense qui se trouve être modifié quand on coupe cette communication intestin-cerveau.
Cette baisse d'activité se lie aussi directement dans le cerveau. Les neurones dopaminergiques sont moins actifs, il y a moins de libération de dopamine. Finalement, cela signifie que le circuit de la récompense n'est pas isolé du reste du corps. Il fait des allers-retours avec l'intestin, même quand il ne s'agit pas de nourriture. Cela ouvre des perspectives sur notre compréhension du fonctionnement normal et pathologique du système de récompense, notamment dans les addictions. Mais soyons clairs, c'est une étude chez la souris, en recherche fondamentale, on ne parle pas de traiter des addictions en coupant un nerf. La suite, ce sera de poursuivre l'exploration de ce mécanisme de façon d'ailleurs moins radicale. L'idéal serait de pouvoir moduler pharmacologiquement l'activité du nerf vague, à la hausse ou à la baisse, mais sans le couper. L'objectif est de mieux comprendre comment cette communication intestin-cerveau influence la prise alimentaire, notamment en cas d'obésité, et à terme, de déterminer quel rôle joue notre ventre dans les addictions.
Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques d'Alexandra Delbo sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On n'a pas parlé du sommeil des tout-petits, et pourtant ça perturbe bien les parents, les grands-parents, enfin tous ceux qui y sont confrontés. Quand ils ont des troubles du sommeil, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà quand ils veulent pas s'endormir.
On commence par calmer les parents. Avant tout parce que les troubles du sommeil, dans 99% des cas, sont le reflet de l'angoisse des parents. Et c'est vrai, j'ai été jeune parent aussi, et j'étais pas tranquille. Par exemple, les adultes qui ont peur du noir s'imaginent que leurs enfants ont peur du noir. Or, la phobie du noir n'existe pas avant l'âge de 2 ans.
C'est sûr, ça?
Ah oui.
Ah ouais.
Enfin, moi, je fais référence à Marie-Jo Chalamel, qui est pour moi la numéro 1 nationale du sommeil des enfants. Et elle l'explique bien.
Donc, si on sort de la chambre, on risque pas de le traumatiser.
Et non. Et donc, les veilleuses, par exemple, c'est une catastrophe. Surtout les veilleuses bleues.
Ouais.
Les veilleuses bleues bloquent la mélatonine, donc on crée et on entretient le
trouble du sommeil. Vous n'allez pas être copain avec tous les fabricants. Hein.
Alors s'ils font des veilleuses très très faibles, rouges, pour après 2 ans, peut-être qu'on peut les accepter. Mais autrement, non, si vous allez sur Temu, ne prenez pas de veilleuses comme ça. Et puis il y a une autre chose qui est importante, c'est que les parents, et je ne les blâme pas parce qu'ils font de leur mieux les pauvres, ils restent à côté de leurs petits jusqu'à ce qu'ils soient endormis. Et ça, c'est une catastrophe. On ne doit surtout pas attendre que l'enfant soit endormi parce qu'il n'apprend pas à s'endormir seul. Et toute sa vie, il aura du mal à s'endormir seul.
Mais on peut le laisser pleurer et on sort de la chambre.
Et combien de fois? Mais normalement, vous le couchez gentiment, vous lui racontez une histoire, vous lui chantez une berceuse, vous l'amusez et tout. Et puis quand il est bien calme, vous sortez sous la pointe des pieds, surtout avant qu'il soit endormi. C'est essentiel. Et moi, j'ai eu assisté à des consultations, je voyais des parents effarés, les yeux jusqu'au milieu du visage, parce que il y avait, je me rappelle, un cas incroyable où la mère restait de 20h jusqu'à 2h du matin, donc elle regardait des films sur son téléphone, et le père arrivait de 2h à 7h du matin.
Ah oui.
Et c'était catastrophique, et il fallait absolument, ils avaient des grosses crampes sur les bras, parce qu'il fallait qu'ils tiennent l'enfant, sinon il hurlait.
On ne fait pas, j'ai bien compris.
On lâche les enfants avant qu'ils soient endormis.
Merci beaucoup Patrick Lemoine. Rappelle votre dernier livre qui est vraiment très bien fait, c'est une BD avec comme co-auteur Museau, ça s'appelle « Docteur, j'ai mal à mon sommeil » et c'est chez Odile Jacob. Merci d'être venu.
Merci Marina.
Merci à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Swat Boukorsa qui l'a réalisée et mise en ondes.